Silence, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 octobre. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok. Alors, ce qui devait arriver arriva. Le Premier ministre, Madame le Premier ministre Liz Truss a démissionné hier. Ouf, au bout d'une semaine ou de 10 jours assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'elle s'est débarrassée de son chancelier à l'échiquier, ou au trésor, je ne sais pas trop comment on dit, le ministre des Finances, M. Kwasi Kwarteng. C'était une erreur magistrale de sa part, parce que la situation étant ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire assez chaotique, et le parti étant lui-même divisé, le parti des touristes, comme on dit, c'était à prendre ou à laisser, c'est ce qu'elle devait jouer, hein, c'est-à-dire c'était à prendre ce paquet, je ne sais pas, ce team, ce packaging, je ne sais pas comment dire, Liz Kwasi ou alors Kwarteng, ou alors Liz Kwasi plutôt, ou Truss Kwarteng, ou alors tout prendre ou tout laisser tomber, parce qu'en sacrifiant son ministre des Finances, elle a remis en cause sa propre légitimité, puisqu'il y a eu des élections après le scandale Boris Johnson, le premier ministre d'avant, qui faisait que chacun a été élu sur la base d'un programme. Et elle a été élue, c'est curieux, sur la base de ce mini-budget, vous voyez. Qui se dit highly croissance très forte, growth, et puis basée sur, accompagnée par une baisse des impôts. C'est curieux parce que le parti a voté, on a dit oui, elle a voté, bien qu'il y a toujours une division, on ne peut pas être tous d'accord. Il y avait 2 ou 3 candidats, elle est passée. À ce moment-là, le parti était d'accord, mais après, on ne comprend pas pourquoi, lorsque quelqu'un a fait campagne sur un programme que vous connaissez très bien, vous avez élu ce programme-là, connaissant très bien ce que cela impliquait, pour après vous désister, démettre cette personne-là, un peu comme si c'était une pestiférée. On se demande, on se pose la question, mais comment elle a fait pour passer? Les mêmes qui ont dit oui hier, aujourd'hui, ils lui disent non. Alors, c'est curieux, donc ça veut dire que le parti lui-même est très malade, profondément malade, et tellement malade qu'il y a un de leurs, j'ai oublié le nom, il s'appelle, le prénom c'est Charles, hein, un parlementaire très remonté, qui a dit qu'il avait honte de ce qui s'était passé au parti, parce qu'on revotait, on était toujours en crise permanente, et qu'il imputait cela au fait qu'il y avait très peu de gens talentueux, talentless people au Parlement, c'est-à-dire ses collègues, environ 80%, hein, il a établi, vous voyez, c'est énorme. On dit d'ailleurs la même chose de l'éducation, de l'enseignement supérieur, où les enseignants seraient à 80% aussi en deçà des attentes. Ici au Cameroun, on a parlé des instituteurs de l'enseignement supérieur et j'ai vu un article dans l'Écho qui essaye aussi de mettre comme ça en exergue ce problème de l'enseignement supérieur et qui tend à dire qu'il faut dissocier les activités d'enseignement et de celles de la recherche, ce qui est une aberration, hein, parce qu'un enseignant au niveau supérieur, s'il veut être à la pointe, il doit être chercheur. Bien sûr, on ne fait pas la recherche pour la recherche. Ce n'est pas comme dans les sciences exactes. C'est la recherche est permanente. Et même dans les sciences exactes, on fait la recherche. Ça, c'est, 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 C'est donc ce parlementaire qui dit ça et qui est choqué et qui dit que lui, la patience a ses limites, il va jeter l'éponge et la prochaine fois, il ne se représente plus parce qu'il ne se reconnaît plus dans ce Parlement, déjà trop bruyant, vous savez, avec ces gens qui arrivent et qui ne votent pas parce que ils sont dans une vision stratégique du parti et de la croissance du pays, mais plutôt parce qu'ils sont en quête d'une réélection permanente et ils prétendent pour cela être à surfer sur le sentiment populaire alors de leur base, vous voyez, la base. Alors, c'est le monde à l'envers, hein. On doit éduquer le citoyen, mais on voit aujourd'hui que le citoyen est devenu, il a des réactions épidermiques qui sont attisées par les médias et probablement aussi, bon, d'accord, il y a la pauvreté, mais s'il y a la pauvreté, c'est parce que justement, jusqu'à présent, les politiques qui ont été menées sont en quelque sorte la cause de cette pauvreté. Bon, comment expliquer ça aux gens qu'il faut faire autrement? Il faut faire autrement. Et probablement, alors on a dit qu'elle a Kouassi, le team Lise Kouassi est allé très vite en besogne, qu'il fallait aller au ralenti. Mais en fait, aller au ralenti, ça veut dire reprendre. Enfin, vous savez, il y a. Moi, je suis assez perplexe devant tout ça. Parce que on est activiste, pour faire court, dire activiste, bon, allez vite, plutôt faut se placer dans le cadre de la pensée, on est penseur, on essaye de penser autre chose, et on ne comprend pas pourquoi lorsqu'on propose quelque chose de différent, tout de suite, ce sont les parlementaires qui sont les premiers à freiner des quatre fers et à jouer la carte du statu quo. Alors, il y a un autre, j'ai suivi comme ça la télé, pas la télé, oh là, je regarde pas de télé, très rarement, sur Internet, où il y a des vidéos assez intéressantes, un commentateur qui disait qu'en fait, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est qu'il y a un peu comme un clash générationnel. Il y a ces plus jeunes, c'est-à-dire de l'âge qu'on avait de la première ministre avec son, comment je vais dire, son entourage, ses conseillers, ses ministres, son gouvernement, qui ont une philosophie complètement différente des anciens, pour faire court aussi les anciens. Les anciens sont là. Ils conçoivent la vie comme un long fleuve tranquille, vous savez, pas de remous, on touche à rien, ça coule, selon l'orthodoxie que nous connaissons tous, qui dit que quelqu'un d'autre critique, l'argent ne doit pas être cher, c'est-à-dire si l'argent n'est pas cher, ça veut dire les taux d'intérêt bas, tout ce qu'il faut en fait pour assurer les fonds de pension qui seraient les détenteurs de l'argent qu'on injecte. Dans le commerce, dans les finances, dans la société, dans la gestion du bien public qui revenait avant, non pas au fonds de pension, mais à l'État et à sa banque et aux banques centrales qui n'existent plus. Alors, c'est le problème je veux dire, il y a une opposition radicale à ce niveau-là. Donc, les jeunes qui arrivent, qui disent non, mais cette doxa, jusqu'à présent, n'a donné que des inégalités, puisque les fonds de pension sont arrivés avec beaucoup d'inégalités, parce que ces gens qui ont de l'argent ou qui sont à la retraite, qui ont misé leur épargne là-bas, ne sont même plus dans le monde actif, enfin pour beaucoup, ils se réservent le gros pactole, ce qui est normal, ce sont eux qui investissent leur argent après tout, hein, c'est logique. Et au détriment du travailleur, au détriment des entreprises probablement qui payent beaucoup d'impôts. Et il était question dans ce mini-budget de réduire aussi ces impôts. C'était aussi l'idée de Boris Johnson, le précédent Premier ministre. Et toute la société paye. On prend beaucoup de l'autre côté, c'est l'argent, hein. Si vous tirez trop d'un côté, il y aura trop peu, pour les autres. C'est simple, c'est mathématique. C'est même pas financier, c'est mathématique. Alors, Il y a donc les tenants, l'ancienne génération de parlementaires, les caciques qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, vous savez, qui ne partent pas et qui rejouent toujours leur élection, comme justement les fonds de pension. Parce que c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est très intéressant parce que la logique des fonds de pension finançant l'économie et le bien public est la même qui s'imprime dans la politique. Et qui ravage la société, en fait. Dans la politique, ça donne quoi? Si on veut rassurer toujours les fonds de pension, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse le pouvoir, on touche à rien, on reste dans le statu quo, parce que si on touche un peu, il va avoir l'instabilité, la volatilité. Et eux, quand ils misaient leurs fonds, ces gens-là, on leur a garanti une stabilité financière, stabilité des marchés pour que leurs gains soient constants. Alors si ça bouge, les gains ne sont plus constants et c'est toute leur machine qui se déraille et c'est ce qui s'est passé. Sur le plan politique, on reprend cela, pas de vague. Une fois qu'on est élu parlementaire, on se colle comme ça au populisme qu'on reproche aux autres, c'est facile. Et puis ça continue tranquillement, il n'y a pas d'idées assez innovatrices ou innovantes qui peuvent changer les choses parce que on aura toujours ces cris qui vont dire attention, attention, tout ça va aller en instabilité, on ne va plus rien maîtriser. Nous sommes devenus tellement fébriles ou alors tellement filous, on ne sait pas comment dire, puisque même le FMI s'y est mêlé. Alors, le FMI, franchement, le FMI qui naît de la doctrine de Keynes, d'ailleurs, un Britannique, avait émis l'idée d'injecter des liquidités dans chaque État afin que la demande soit toujours là, que le marché reste ouvert. Et finalement, que ce qu'on a, quand Keynes pensait à ce marché-là, il pensait à un marché libre, où j'aurais la libre concurrence, mais où chacun devait avoir un rôle positif dans la croissance, justement, pas dans le statu quo. Et ça fait que si d'un côté, parce qu'une situation, elle l'exigeait, il y avait qui ne suivaient pas, on leur donnait des liquidités, c'est-à-dire qu'on accordait des prêts, mais pas pour qu'ils s'assiedent dessus, mais pour participer à ce grand mouvement, vous voyez, qui était un peu comme, on appelle ça les effets d'entraînement. Voilà. Et aujourd'hui, ce que Keynes a conçu comme un marché libre, peut-être libéral, je ne sais pas, mais parce que pas tellement, parce qu'on prévoyait aussi du social. Aujourd'hui, cette liberté qui était plutôt ouverte est devenue conditionnelle. C'est-à-dire la condition pour le FMI de vous prêter de l'argent, c'est que tout, comme on dit, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, là vous comprenez les termes économiques, c'est-à-dire que les fonds de pension, on ne touche pas. Ce n'est pas les fonds de pension qui devaient financer la politique publique, c'est des choses comme la monnaie indépendante, c'est des choses comme les idées, la vision du politique, et c'est des choses, ben, quand je dis des choses, c'est une façon de dire, et c'est le FMI qui devait accompagner tout cela, l'accompagner, pas le pressurer, comme ça se passe maintenant. Alors c'est un problème philosophique majeur qui éclate comme ça au Royaume-Uni, parce que là-bas, il y a cette classe qu'on appelle en France de bobos qui a pris le pouvoir et qui a osé aller plus loin, sans parler de, on met changement climatique, toutes choses étant égales par ailleurs de côté. Ce problème philosophique, pour le moment, il a été évacué comme on l'a vu, hein, donc là, dans une vraiment une mise en scène tragique, la tragédie shakespearienne, c'est ce qu'on a vu là. Mais passé cela, il reste le problème de fond, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le statu quo ou on bouge de statu quo, lequel devient étouffant, étouffe tout, puisqu'on a eu, là j'ai vu aussi des manifestations un peu partout que les médias ne rapportent pas, puisque les médias sont des agents de ce statu quo. À Bruxelles, il y a eu des démarches qui réclamait la justice. À Paris, on a vu ce que ça a donné le coût de la vie. Bon, je sais pas pourquoi on a parlé de changement climatique immédiatement. Bon, voilà. Au Royaume-Uni, on a parlé de liberté. Les gens défilaient sous le mot liberté. À Berlin, c'était contre l'inflation. Il y a eu beaucoup de mouvements en Australie. Et un peu partout au Canada aussi, je crois. Bon, tous ces mouvements de foule, ces défilés, des gens qui sont contre, les médias n'en parlent pas. Ce sont des, faut avoir la chance, hein, de tomber sur une vidéo dans les médias alternatifs pour voir tout cela. Les gens sont pas contents. Et après, en plus, on apporte une guerre, comme si cela ne suffisait pas. Mais la guerre fait partie du protocole des fonds de pension, de la gestion privée du bien public. Alors, qu'est-ce qu'on dit après tout cela? Qu'il y aura un avant Lystros et un après, forcément. Tout le monde a remis M. Jeremy Hunt, qui était ministre des Affaires étrangères, un grand conservateur, enfin un grand adepte, hein, du ronron. Du consensus mou, comme on dit, du long fleuve tranquille, mais ça va pas tenir. Il est venu, il a cassé toutes les mesures qui ont été adoptées, enfin qui avaient été annoncées par le chancelier Kouartan, parce que c'était des mesures révolutionnaires. Ça changeait la donne complètement. Notamment, ça retirait la force de battre monnaie et de piloter l'économie au fonds de pension et à la Banque européenne. C'était question de souveraineté qui se jouait là. On n'a pas prononcé le mot, mais les jeunes, les plus jeunes, les révolutionnaires du parti voulaient reprendre la souveraineté britannique en main pour avancer. Le high growth n'est possible que si le pays est souverain. S'il n'est pas souverain, s'il est toujours attaché, vous voyez, à la gestion fonds pension, marché, tout ça, ça ne donne pas, ça peut pas aller loin. Donc, c'est dommage, mais en même temps, ça valait le coup. Donc, les médias disent que Madame Lystros est celle qui a fait le moins de temps. Vous voyez encore la société de spectacle qui vient pour rendre spectaculaire quelque chose qui est plus signifiant, qui a beaucoup de sens. Et la question n'est pas de faire moins de jours ou plus de jours. La question est ce que vous apportez dans le changement nécessaire aujourd'hui, obligé même. Alors c'est vrai, pourquoi c'est obligé? Parce que l'argent... Et le pouvoir de l'argent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, au détriment du pouvoir des idées et de la pensée, de la vision politique, est abouti à un effet de nuisance et de paralysie sociale. On est d'accord. Il y a une nuisance en termes de fonctionnement global des institutions et une paralysie aussi et des institutions et de la société. Qu'est-ce qu'on fait contre cet effet, double effet de nuisance et de paralysie? C'est la question qui a été posée par le mini-budget, clairement, et que le mini-budget se proposait de corriger. Alors, on peut pas éviter le roi Charles dans cette histoire, parce que le roi Charles, bon, c'est un homme, il a une approche dans sa gestuelle, hein, on appelle... c'est plus comme on a dit ça, le body, enfin, le corps, quoi, la gestuelle, j'ai oublié l'expression. Et dans sa façon même qu'on a vu d'être, elle est déjà très masculine, et puis donc masculine, donc pro-guerre. Oui, il est pour la guerre en Russie, je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, quel est l'intérêt du Royaume-Uni dans cette guerre, sinon que c'est l'Occident en gros qui se sent menacé, c'est-à-dire dans son. Dans son hégémonie et son impérialisme, qui arrive aussi au bout. C'est toutes les questions posées par Lystros, cette hégémonie qui était aussi basée sur la monnaie, arrive au terme et qu'il faut qu'on change le paradigme dans ce sens qu'on ne peut plus gérer le bien public par les fonds de pension qui sont limités, mais par, justement, on revient à Keynes, par la mondialisation de l'économie. C'était ça la philosophie de Keynes, mondialiser l'économie, la rendre dynamique, en sorte que, bon, tout le monde devait y participer, tous les pays. Si le pétrole vient de la Russie, ben alors c'est très bien. S'il vient de le gaz, etc. Après tout, les pays occidentaux n'en produisent pas, ils n'en ont pas. C'est pas mauvais, ils ont autre chose. Chaque pays a quelque chose à apporter. Alors cet esprit coopératif faisait que la concurrence devenait saine parce que chaque État devait donc se repenser pour se relancer dans cette optique keynésienne. Je suis étonnée que j'ai vu des analyses, j'ai vu personne parler de Keynes. Or, c'est le fond du problème. Revenir à Keynes, c'est revenir aux fondamentaux même de la gestion du bien public et de la gestion des relations internationales. D'où que M. Hunt, Jeremy Hunt arrive, il arrive, il est des affaires étrangères. Aujourd'hui, les affaires étrangères, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la monnaie ne bouge pas. Franchement. C'est essentiellement cela, et que l'hégémonie occidentale perdure, que la monnaie, le dollar reste roi. À partir de là, les relations internationales sont carrément calquées sur l'économie aussi. Voyez, sur le long fleuve tranquille, qui fait que M. Biden, il est coulé en ce moment, parce que la France aussi, ils ont joué à se tirer une balle dans le pied, comme Madame Truss s'est tiré une balle dans le pied en larguant Monsieur Quartem. Fallait pas, fallait aller au bras de fer, puisque de toute façon on y aboutit. On a abouti à ça. Il fallait aller au bras de fer tout de suite, et puis voilà que ça explose. Et de toute façon, c'est explosé. Alors il fallait au moins que ça explose avec dignité, fracas et du sens, au lieu de démissionner en rase campagne et de laisser ce dont les gens de peu de talent, comme dit ce parlementaire britannique, encore se remettre en selle. Vous vous rendez compte, on nous dit parmi les successeurs possibles, Liz Truss n'a pas voulu prolonger plus d'une semaine son remplacement. Donc ça va être très vite vu la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, il y a un nouveau Premier ministre. On vous reparle de Boris Johnson. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient de le larguer. Il a une carrière derrière lui extraordinaire. Il revient encore pour refaire. Non, mais c'est pas possible. Et on vous reparle de celui que Liz Truss avait battu parce qu'on n'avait pas voulu de son programme. On va le reprendre sur la base de quel programme? Du même programme que celui qu'on avait rejeté, vous comprenez? Alors, il paraît qu'il y a eu beaucoup de magouilles pour lors de. Il y a eu un vote, hein, ça c'était le jeu politique, un vote de censure de Liz Truss pour qu'elle parte vraiment dans l'humiliation totale. Bon, on a dit non, on ne va pas quand même arriver à ça parce que les bords seront trop contents. Vous voyez, c'est triste. Que veut le parti finalement? Chacun joue son propre intérêt, c'est tout. C'est ce qu'on voit. L'histoire, les idées, la pensée. Bon, les médias, ils pensent rien. Ils sont là pour attiser, mettre l'huile sur le feu, suivant les ordres qui leur sont donnés par ceux qui gèrent les fonds de pension au niveau des banques, d'ailleurs lesquelles sont les propriétaires des médias, voyez un peu. Donc, c'est ce système-là qu'on ne veut plus. On ne veut plus de ces systèmes. Mais bon, pour terminer, parce que qu'est-ce qu'on va ajouter? Moi, j'aurais pu donner deux ou trois exemples de ce que ce système des rentiers. Vous voyez, j'avais écrit un livre, je l'appelais le clonage institutionnel, j'avais hésité. Soit j'ai dit clonage institutionnel sur un plan de la pensée, soit j'ai dit la société des rentiers sur un plan de l'économie. Bon, je ne suis pas économiste, mais j'ai une formation civilisationniste qui m'a permis de toucher à toutes ces choses-là et surtout aller toucher là où elles se rencontrent. Parce que c'est là où elles se rencontrent qu'elles s'entrechoquent ou se caresse, c'est là que le sens apparaît. C'est là que le sens apparaît. Et je pourrais citer des exemples, mais ça ne sert à rien, laissons tomber, parce qu'il faut laisser la merde remuer dans sa propre gang, fange, pardon, on laisse tomber. Et pour dire carrément que le roi Charles, une fois, enfin, on dit que lorsque Liz Truss est allé le revoir ou le voir après la mort de la reine, et il a eu une phrase: Vous êtes encore là? Ah, on tourne ça en termes de boutade, mais moi, quand j'ai lu ça, vous êtes encore là, C'est vrai qu'on pouvait dire, mais ça fait pas longtemps qu'elle avait vu la reine est décédée, puis elle revient, mais vous êtes encore là, vous êtes revenu. Non, vous êtes encore là, ça voulait déjà dire que Lystros, son sort avait été scellé et le roi le savait. Vous êtes encore là, c'était son mot. Alors, le roi Charles, il imprime ça, c'est un roi, hein. Il fera ce qu'il voudra. Bon, mais s'il revient dans le statu quo, ça servira à quoi? À quoi bon? À quoi bon de passer d'une reine qui a regardé ces choses-là comme elle a pu à un roi qui va faire la même chose que sa mère? Finalement, ça va être. Il va changer peut-être à la marge, pas faire la même chose que sa mère, mais faire en mode masculin, vous voyez? Ça va être viril, hein? Ça va être viril. Bon, ça veut dire que la guerre en Ukraine. Poutine doit la prendre très au sérieux. Il doit la prendre très au sérieux. D'ailleurs, il la prend très au sérieux. Et il la prend tellement au sérieux qu'il est en train de la gagner. Et que ceux qui pensent le coincer vont se retrouver coincés. Et c'est ce qui va arriver aux Tories. C'est-à-dire, ils ont cru avoir la tête de Corentin, surtout, le Premier ministre, enfin, le Premier ministre, le ministre. Des finances, ici de l'immigration, ils ont cru qu'ils auront sa tête, mais c'est finalement la leur qui est déjà mise à prix. Et bon, amis des radios silence, hein, je vais pas dire que l'heure est grave, c'est pas mauvais ce que cette femme a fait, et ça restera dans l'histoire parce que d'autres vont tenter cela, d'autres vont tenter cela. Quand Macron partira, d'autres, Jean-Luc Mélenchon, si c'est lui, il tentera la même chose que Lystros, différemment. Mais ça sera, ce qu'il faut regarder, c'est la philosophie d'un programme. Quelle est la philosophie d'un programme? Quand on dit croissance, c'est qu'il n'existe plus, il n'y a plus de croissance. C'est un terme fort. Quand on dit baisser les impôts, c'est aussi un parti pris idéologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement baser une société sur le racket fiscal, il faut aussi que l'État devienne producteur de richesses. Mais comment l'État peut produire des richesses? Mais tout le monde le sait, tous ces grands-là, ils empruntent de l'argent pour avancer, pour mettre en place le programme. Vous n'aurez jamais l'argent qu'il faut pour lancer un programme sur 10, 20, 30 ans. Personne n'a jamais eu ça. Tout le monde a emprunté sur cette durée-là, puisque l'État ne peut pas faire des projets à court terme d'un an, 2 ans, 3 ans, comme les parlementaires se sont agités là à faire croire, en dégoûtant tous ceux qui peuvent réfléchir un tout petit peu ou qui ont l'expérience. Alors on dit Lystros n'a pas d'expérience. Là où elle a manqué d'expérience, c'est sur cet aspect relation avec le Parlement. Oui, là, oui. Où, position, elle pensait même pas qu'il y aurait un problème. Elle n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir un problème de crise, puisqu'elle a été élue sur ce programme. Oui. Bon, on en perd son latin. Donc, amis de Radio Silence, il y a les élections, la mi-terme, les élections de mi-mandat aux États-Unis dans moins de 3 semaines. On annonce la victoire des Républicains, qui se sont. Vous savez, les démocrates ont voulu jouer au statu quo. Vous voyez le statu quo dont on parle tout le long fleuve tranquille, en pensant que le fait qu'on ait aboli l'avortement va faire en sorte qu'ils vont surfer là-dessus, et puis finalement, ils vont gagner. Mais entre-temps, ils ont déclaré une guerre. Laquelle guerre les a plombés parce que l'inflation est monstrueuse, le coût de la vie est terrible, et pas de paie, bon, etc. Et c'est toutes les pénuries que vous voyez. Il y aura un hiver, hein, un passage en hiver, mais on ne sera pas déjà en hiver. On est là en novembre, le 8 novembre, pour avoir le verdict sur la majorité au Congrès. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. Par Elise Bock, je vous dis à bientôt.